L'application. 1. Les exactions du président et de l'exécutif. Depuis la publication de la loi numéro 20-2290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, des ordonnances, décrets, lois de prorogation ont été appliquées sans qu'aucun pouvoir n'ait été en mesure de remettre en cause le caractère inconstitutionnel de ces mesures, en violation du droit international et des conventions. Voire mise en demeure, pièce 1. Nous pouvons constater à la lecture de la décision du Conseil constitutionnel numéro 20-2808 DC du 13 novembre 2020-17, relative à la loi autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, que le Conseil constitutionnel refuse de censurer la dite loi, alors que le gouvernement a utilisé la procédure des votes bloqués, article 44, al.3 de la Constitution, empêchant ainsi d'adopter un amendement réduisant la période de confinement, amendement qui avait été adopté lors du premier vote. Décision entérinée par le Parlement grâce à la majorité présidentielle obéissante, par le biais de procédures accélérées, et via le système des votes bloqués bâillonnant ainsi la voix du peuple normalement portée par le Parlement. Certains députés de l'opposition ont qualifié ce type d'agissement de coup d'état larvé. Décision de rendre le port du masque obligatoire en toutes circonstances pour les enfants, octobre 2020, et les adultes, dès l'été 2020, que les individus soient malades ou non malades. Or, aucune étude scientifique ne démontre l'utilité du masque en cas d'épidémie. Le comité scientifique n'a pas cru bon de devoir analyser des masques usagés afin de vérifier si la mesure n'était pas au contraire nocive pour les citoyens. Les membres de l'exécutif n'ont présenté aucune étude scientifique permettant de démontrer que l'utilisation du masque était utile, et sans danger. Certaines femmes ont dû accoucher en France en portant un masque contre leur gré, ce qui est qualifiable d'acte de torture. Ainsi l'exécutif sur impulsion du président bafoue continuellement le bloc constitutionnel depuis le début de la crise en neutralisant le Parlement et les institutions judiciaires qui se retranchent constamment derrière l'excuse de l'état d'urgence et pour plaire à son ministre. Ainsi le Conseil d'État qui est présidé par le Premier ministre, déclare dans une ordonnance regroupant de multiples affaires, selon la même position de réponse à la mise en demeure formulée par le comité scientifique antérieurement à cette décision, pièce 2, le comité scientifique ne peut pas être poursuivi, son avis n'est que consultatif, il n'impacte en rien l'avis des personnes. Or, par cette décision le Conseil d'État frappe son ordonnance d'illégalité puisque étant contraire à la loi, le juge ne peut sans violer les dispositions de la Constitution empiéter sur un domaine réservé du législateur ou du pouvoir exécutif, et de s'immiscer dans le règlement ou la législation. Rappelons que les anciens membres de l'exécutif sont recyclés au Conseil d'État, 19. Il faut rappeler également que le Conseil constitutionnel a été pris dans un gros scandale de rémunération par l'État, d'enrichissement personnel, 18, d'où sa complaisance avec le pouvoir. 18. http://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2020/2020808dc.htm 19. Voire mise en demeure page 17 paragraphe 2 scandale juridique, pièce 1. 20. Mise en place d'un comité scientifique, et du comité analyse, recherche et expertise, car, dont la quasi-totalité des membres ont des liens d'intérêt professionnel et financier avec l'industrie pharmaceutique, et dont le fonctionnement est contraire à la loi. Violation des articles 16 et 24 de la Constitution. En créant un conseil de défense réservé en temps de guerre alors que nous sommes en temps de paix, ceci afin de ne pas rendre compte des décisions, et imposer des mesures dictatoriales. Violation de la liberté individuelle, et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. Exemple en ce sens, obliger des personnes non malades à porter un masque dont l'inefficacité et la dangerosité pour la santé a été admise de longue date par la communauté scientifique. Violation de la liberté de circuler, d'aller et venir, en ce sens l'État est coupable de détention arbitraire à l'égard des citoyens en temps de paix. Les citoyens qui contreviennent à une mesure de confinement sont verbalisés. Volonté de mettre à l'isolement des citoyens positifs au test alors qu'ils ne sont pas malades. S'apparente à des mesures de séquestration. L'État entend verbaliser les personnes qui enfreignent la quarantaine à hauteur de 10 000 euros, et procéder à un isolement forcé. Violation du principe général du droit de mener une vie familiale normale. Par l'interdiction d'aller rendre visite à un proche en EHPAD, de restreindre la possibilité d'assister aux funérailles, et d'interdire toute possibilité de se réunir en famille. Violation de la liberté d'entreprendre et inégalité de traitement, les petites et moyennes entreprises, PME, à savoir les commerçants, les travailleurs indépendants, les secteurs entiers de la culture, la restauration, le secteur de l'habillement, le secteur de l'esthétique, le secteur du tourisme, le secteur de l'événementiel, etc. En somme, tous les non-fonctionnaires, hors commerce de l'alimentaire. De la pharmacie, des journaux et tabac, pâtissent de ces mesures liberticides et mortifères. De nombreuses procédures de liquidation judiciaire sont attendues avec toutes les conséquences gravissimes d'ordre social. Les mesures imposées ne sont pas levées malgré l'appel du peuple. Violation du droit de manifester, et de se rassembler, violence à l'encontre des manifestants ou interdiction pure et simple de manifester, voire séquestration. Violation du droit à l'éducation, l'extorsion par chantage au consentement du test RT-PCR, sous peine d'être exclu. Violation du droit à l'autonomie personnelle par l'extorsion par chantage au consentement du test RT-PCR et du vaccin sous peine d'être exclu, imposition d'un masque. Exemple en ce sens, le fondement du droit au respect de la vie privée, un principe d'autonomie personnelle selon lequel chacun peut mener sa vie comme il l'entend, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger, ce qui donne lieu à l'identité subjective par la libre disposition du corps, relevant du droit conventionnel international CESDHLF. Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de messe dans les églises de France alors que les croyants ont besoin d'apaisement. Violation de la liberté d'expression, mise à l'index de tout avis scientifique non conforme à la volonté du Conseil de défense, pouvant entraîner des radiations professionnelles, des gardes à vue, des peines de prison, des amendes. Violation de l'habeas corpus international et national. 21. 2. Le comité scientifique. Ce comité scientifique a produit pas moins de 38 avis et 10 notes, pièce 20. Il a demandé que certaines notes soient imposées, seules, 3 n'ont pas été suivies des faits. Ces avis et notifications révèlent aussi que le comité savait que le test RT-PCR n'était pas fiable puisqu'il recommandait de réduire le nombre de cycles d'amplification de 45 à 40, ce qui ne change rien, le comité relevant par ailleurs il est impossible de mettre en culture le test d'une personne de même que pour le test basé sur la sérologie. Test d'anticorps, alors qu'il est dès le début déconseillé par une publication de l'OMS comme relevant un taux d'erreur de 50%. Le comité révèle également que le taux de circulation du virus en France est faible, et pourtant ce comité dirigé par M. Jean-François Delfrécy, non élu, et agissant en infraction à la loi, pièce 21, dispose d'un pouvoir exorbitant de droit commun qui ne peut en aucun cas lui permettre d'être dans un régime d'irresponsabilité, étant donné qu'il décide indirectement de l'avenir de la nation, de la population alors que, paradoxalement, il n'a aucune légitimité à émettre des avis, objectifs, quant aux décisions à prendre concernant la santé des citoyens au vu de ses nombreux liens d'intérêts financiers et professionnels avec les laboratoires pharmaceutiques en cause, pièce 22. Afin de tenter de dissimuler leurs liens d'intérêt, certains membres n'hésitent pas à modifier leur prénom comme c'est le cas pour M. Yazdan Yazdanapana, membre du dit comité et directeur de Reacting créé par le plan France Médecine Génomique 2025 chargé des recherches sur le génome humain, voire page 13 et 14, qui se fait aussi appeler Yazda, Zazda, cela permet de relativiser les sommes perçues de 3000 euros à titre personnel sous un vrai nom et prénom, alors qu'il apparaît que les montants versés par les industries pharmaceutiques sont en réalité de 133 698 euros, sans compter les contrats non déclarés. Dès lors il est impossible de savoir l'importance des liens et montants versés par les industries pharmaceutiques. Ainsi, malgré les propres constations du comité qui aurait dû inciter un changement de politique sanitaire, le confinement, le couvre-feu, le port du masque, les tests RT-PCR, les tests d'anticorps, le vaccin dont le terme est impropre, les protocoles sanitaires, dont les décisions de justice ont été influées, voire imposées sur ces recommandations, en toute illégalité, puisqu'il n'existe aucun enregistrement ou compte-rendu des séances d'un comité scientifique Covid-19 proposant au gouvernement des mesures adaptées à une supposée crise sanitaire. De même, aucune liste des experts sollicités n'est accessible, contrairement à ce que prévoit la loi et le règlement. Impensable pour un organe censé apporter un conseil éclairé, le comité scientifique ne s'appuie sur aucune étude autre que celle fournie par les laboratoires pharmaceutiques, et la base des travaux de modélisation inexacte réalisés par le professeur Neil Ferguson, pièce 23. Monsieur Delfrécy est présent dans tous les scandales de conflits d'intérêts en passant du H1N1 à l'hépatite C, au Remdesivir, le point commun de ces scandales étant le laboratoire Gilead, auquel depuis 20 ans, Monsieur Delfrécy accorde tout ce que le dit laboratoire demande, et en participant même aux réunions en tant que « board ». Enfin, Monsieur Delfrécy confirme dans une lettre envoyée à l'ex-commission d'enquête qui a été dissoute par l'exécutif, qu'il y a bien des liens entre lui-même et les laboratoires, mais qu'il n'y voit aucun problème, pièce 24. 22. 3. La dangerosité du SARS-CoV-2, son existence et son origine. A. Dangerosité. Il est rappelé que les causes de mortalité suivantes n'ont jamais déclenché un tel plan disproportionné. Aucun confinement, aucun masque. En France, la grippe saisonnière touche 2 à 8 millions de personnes, et cause 10 000 à 15 000 décès. Dans le monde, la grippe saisonnière provoque de 290 000 à 650 000 décès par année. En France, l'épidémie de gastro-entérite à rotavirus touche 300 000 personnes dont 160 000 cas sévères. Dans le monde, l'épidémie de gastro-entérite touche 700 millions de personnes, et provoque environ 800 000 décès par année, dont 500 000 enfants de moins de 5 ans. En France, 25 600 décès sont attribués à une pathologie infectieuse. Ils représentent 5% de la mortalité toute cause. En France, chaque année, 30 000 décès sont liés aux accidents domestiques. En France, chaque année, 80 000 décès sont liés à la pollution de l'air. En France, le bilan est de 600 000 décès en moyenne par an, toutes causes confondues. À ce jour, le nombre des décès supposés directement liés au Covid-19 est d'environ 103 000, dans le même temps 650 000 morts d'autres pathologies étaient déclarées. Les facteurs à prendre en compte afin de cibler les malades potentiels sont bien connus de tous les médecins. Il s'agit notamment d'individus présentant des facteurs de comorbidité et en âge très avancé. Moyenne d'âge des décès en France supposée Covid-19, 82 ans. Or, aucune distinction n'a été faite entre les citoyens à risque et les autres citoyens afin d'adapter les mesures. L'âge médian des décès par Covid-19 dans la plupart des pays occidentaux est supérieur à 80 ans, soit 84 ans en Suède et 82 ans en France, ce qui correspond à l'âge médian des décès d'ordre général. Seulement 4% environ des personnes décédées ne présentaient pas de conditions préalables graves. Pièce 25. Par ailleurs, il est à noter que le taux de létalité globale du SARS-CoV-2 est d'environ 0,07% tous âges confondus. Ainsi une publication de l'OMS sur l'étude de John Pa. Loanidi, médecin épidémiologiste spécialiste mondial de l'analyse, conclut. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from sero prevalence data. Le taux de mortalité par infection se situe dans la plage d'une vague de grippe normale / publication. Bulletin of the World Health Organization, TIP, Research Article Lead, BLT.20.265892 published online, 14 octobre 2020. Pièce 1 et 26. Le professeur de Stanford John Pa. Loanidi a publié une nouvelle étude le 26 mars 2021. Dans ce document, il a corrigé à la baisse le taux de mortalité par infection, IFR, trouvé dans une étude précédente. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data reconciling estimate of global spread on infection fatality rates of COVID-19, la valeur corrigée de 0,23%, soit une survie de 99,77%, en overview of systematic evaluation. Le taux mondial de mortalité par infection est d'environ 0,15% avec 1,5 à 2,0 milliards d'infections en février 2021 pouce. Cela signifie que sur toutes les personnes infectées dans le monde, y compris tous les groupes d'âge différents et toutes les maladies antérieures, en moyenne 99,85% survivent / Bull World Health Organ. 2021 Yan 1, 99, 1, 19-33F. Published online 2020 octobre. 14. DOI, 10.2471/BLT.20.265892 PMCID, PMC 79-47-93-4, first published, 26 mars 2021. https://doi.org/en0.1/echi.1355-4, pièce 27. Selon le réseau Sentinelle du 20 juin 2021 concernant le Covid-19, la grippe et autres virus respiratoires tout confondus, il y a 30 cas pour 100 000 habitants en médecine générale et 1 cas pour 100 000 habitants en médecine générale pour le Covid-19 seul, soit un nombre très inférieur à la diarrhée aiguë, pièce 27R. 23. Selon le président de l'Institut allemand Robert Koch, RKI, Lothar Wille, les chiffres pour la grippe se situent également dans cette fourchette. La probabilité de mourir de la grippe est de 0,1 à 0,2%, a déclaré le 27 février le président de RKI, Lothar Wille. Malheureusement, Lothar Wille n'a pas expliqué s'il parlait de l'IFR infection fatality rate ou du CFR case fatality rate. Le CFR est la proportion de personnes atteintes d'une maladie particulière, cas, qui meurent de cette maladie, tandis que l'IFR est la proportion de décès parmi toutes les personnes infectées, y compris toutes les personnes asymptomatiques et non diagnostiquées, pièce 28. De même, une étude récente publiée, February 08, 2021 de Fenton Linda, Gribin Sierra, Caldwell David, Colville Sam, Bishop John, Red Martin, White Jan, Marion Campbell, S. Hutchinson, C. Robertson, M. Colun Helen, Wood Rachel, M. M. C. K. Paul, A. McAllister David, Risk of Hospitalization with COVID-19 Among Teachers Compared to Healthcare Workers Another Working Age. Adults. A Nationwide Case Control Study démontre sur toute la période d'étude, l'incidence cumulée, c'est-à-dire le risque, d'hospitalisation avec Covid-19 est resté inférieur à 1% pour les enseignants, les travailleurs de la santé et les adultes en âge de travailler de la population générale / DOI. https://doi.org/en0.1001/2021.02.05.21.151.189, pièce 29. Ainsi, selon le professeur Loanidi, la mortalité et la dangerosité concernant le Covid-19 n'excèdent pas 0,05%, voire 0,03%, et aucune de ces études n'a été démentie par ses pairs ou même par l'OMS. Enfin, il est remarqué que, partout dans le monde, le taux de mortalité lié au Covid-19 a été purement fabriqué artificiellement en y incluant toutes les pathologies à son compte. Ainsi en France, à de multiples reprises, le président de la Commission des Affaires Sociales, commission permanente de l'Assemblée nationale, a demandé au ministre de la Santé. Je ne reviens pas sur la question polémique du masque, et la question de l'EPRU, que pouvez-vous me dire sur la surmortalité invisible qui est occultée par le Covid-19, je pense au cancer, aux maladies cardio-vasculaires et autres, et on a des certificats de décès que j'ai pu constater dans la mairie où j'appartiens, à savoir des personnes très âgées qui sont décédées marquées Covid-19, Or ces patients n'ont jamais eu le Covid-19, c'est le médecin qui a marqué Covid-19, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a une surmortalité qui existe dans les certificats médicaux, j'ai posé la question à Monsieur Salomon. Jérôme Salomon, le Monsieur Coronavirus du gouvernement, mais il m'a dit qu'il regarderait ça. Pièce 30. Il est clairement établi la fabrication de faux certificats de décès avec la complicité de certaines personnes au nom du Covid-19. Par ailleurs, la grippe n'existe plus en France, le taux de mortalité étant de zéro, ainsi toutes les personnes décédées de cancer, de problèmes pulmonaires, de vieillesse ou d'autres pathologies sont déclarées Covid-19. Nous ne nous étendrons pas sur l'interprétation des sur-hospitalisations invisibles liées au Covid-19. La France employant le même schéma de mensonge, en modifiant la norme régissant la réanimation. Libre pour accueillir des patients avec des défaillances multi-organiques, nécessitant une assistance respiratoire et exprimée depuis le Covid-19. Libre pour accueillir des patients avec des défaillances multi-organiques, nécessitant une assistance respiratoire, les patients placés en soins intensifs ou en surveillance continue, ainsi, a été gonflé artificiellement le nombre de personnes hospitalisées en réanimation pour Covid-19. Prenons cet exemple, une personne atteinte de septicémie se retrouve en surveillance continue, est-elle pour autant en réanimation atteinte du Covid-19 justifiant une surcharge hospitalière Covid-19? En France, oui. 24. B. Son existence. Comme il a été spécifié dans la mise en demeure, pages 9 et 10, aucun document scientifique dans le monde ne prouve que SARS-CoV-2 a été purifié, aucune photo EM, aucun article évalué par des pairs avec le génome du SARS-CoV-2 purifié, aucune preuve que le virus cause le Covid-19, aucun enregistrement concernant l'isolement du SARS-CoV-2 à partir d'un échantillon non altéré, aucun dossier à l'appui de l'affirmation selon laquelle le prétendu virus SARS-CoV-2 provoque des symptômes de Covid-19. Le directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Andrea Hamann, a admis ne pas avoir de documentation, même pour la méthodologie de l'OCDC, pour prouver qu'un virus existe. Et encore moins une preuve de SARS-CoV-2, pièce 1 et 31. Ainsi le protocole du postulat de Koch a échoué, confirmé par le comité scientifique français. Impossible de mettre en culture, alors comment identifier ce que l'on n'a pas pu étudier? Pièce 32. C'est son origine. Comme expliqué dans la mise en demeure, pièce 1 page 16, il a été établi avec certitude après la publication au complet du travail de l'imam Yang qui était sous la supervision du docteur Liu Poon et le professeur Malik Peris, superviseur, à l'université de Hong Kong, laboratoire de référence de l'OMS, co-directeur du pôle de recherche HKU Pasteur conjoint entre l'université de Hong Kong et l'institut Pasteur, s'appuyant sur la recherche menée par l'Inserm France, partenaire important du consulat général de France à Hong Kong et Macao, travaillant sur ZC45 et CXC21 à l'institut militaire chinois, dont le changement de co-directeur du pôle de recherche HKU Pasteur a eu lieu le 3 juillet 2020, le professeur Malik Peris démissionnaire de ses fonctions laissant place à son successeur et collaborateur le professeur Liu Poon responsable des recherches à Wuhan.